Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une sixième séance consacrée aux enquêtrices dans les années 1970 et 1980. Donc c'est la dernière séance, c'est le troisième volet consacré aux enquêtrices. Donc on va poursuivre notre parcours chronologique en s'intéressant notamment à deux exemples. L'un plutôt emblématique du cinéma populaire, La femme flic d'Yves Boisset. Le second, sur lequel j'insisterai moins, Vivement dimanche de François Truffaut, un exemple dans le cinéma d'auteur. Pour contextualiser un petit peu ces représentations et les évolutions qu'elles manifestent, dont elles témoignent, quelques mots en illustration de la slide 2 sur le cinéma policier français des années 70 et 80 hein, dans sa globalité. Il correspond donc à un essor du genre, mais aussi à une forme d'essoufflement hein, très, très tôt, marqué par des performances donc masculines d'Alain Delon et de Jean-Paul Belmondo en particulier, qui sont les deux grandes stars masculines de l'époque, les deux stars masculines des Trente Glorieuses plus généralement, qui fondent leur image de dur à cuire dans le cinéma policier et criminel, et dont on va voir les performances dans une série de films extrêmement longues, en particulier donc pour Belmondo, des films qui le nomment dès leur titre, Le Professionnel, Le Magnifique, L'As des As, etc. Autant de termes qui se rapportent à Belmondo en tant que policier d'un nouveau genre, on va dire, avec des méthodes bien à lui. Et d'autre part, Alain Delon, qui va jouer dans beaucoup de films qui comporteront le terme flic dans leur titre. Un flic, flic story, pour la peau d'un flic, ici à l'écran. Deux illustrations différentes donc de la masculinité dominante dans le cinéma français des années 70 et 80. Vous pouvez d'ailleurs voir que les illustrations s'en donnent à cœur joie pour incarner la masculinité dure dans ses attributs phalliques, le revolver donc que l'on retrouve dans chacun des deux cas. Absence des femmes très souvent sur l'affiche, ce qui signale leur marginalisation dans ces univers, ou lorsqu'elles sont présentes, comme ici à droite dans Pour la peau d'un flic, hein, extrêmement confinées à un endroit qui est celui de la chambre à coucher, partiellement dénudée, donc on le comprend rien qu'en regardant l'affiche, servant de trophée du guerrier pour notre héros interprété par Alain Delon. Le cinéma policier criminel français, en effet, atteint de tels sommets de virilisme dans cette période, que cela a fait l'objet d'une parodie des Inconnus que je vous propose de regarder. C'est le premier extrait, « Ne réveillez pas les couilles d'un flic qui dort ». Ce sketch traduit bien les inégalités de représentation à l'œuvre dans le cinéma policier français des années 1970-1980. Néanmoins, c'est dans ce même univers générique, au lendemain de mai 68, que l'on va commencer à voir apparaître certaines évolutions, donc, en particulier à partir de 1970, slide numéro 3, le film « Dernier domicile connu », où Marlène Jobert joue donc le rôle d'une jeune stagiaire affectée dans un commissariat de police associé au commissaire interprété par Lino Ventura. C'est un film qui permet d'imposer un autre type d'actrice, plus naturelle, à la voix et au physique atypique, avec ses taches de rousseur, son charme adolescent, voire androgyne, nous dit Gwenaëlle Legras, qui va permettre d'humaniser la réflexion de la police, vue comme répressive après mai 68. Un film que je vous encourage à regarder et sur lequel vous pouvez travailler si vous le souhaitez. On va voir que l'exemple que l'on va analyser ensemble, tout à l'heure, La femme flic s'inscrit dans une tendance similaire. Et slide numéro 4, le genre est également marqué par des représentations en évolution sur le plan ethnique et racial dans le film Les Keufs de 1987, qui est aussi le premier film avec enquêtrice réalisé par une femme, Josiane Balasko, qui se fait un nom à cette époque dans le cinéma populaire. Vous trouvez ici l'affiche et le sous-titre. Maintenant, on trouve de tout dans la police, qui est interprété à un double sens. Premièrement, donner plus de visibilité au personnage féminin, évidemment, de l'enquêtrice, interprétée par Balasco elle-même. Deuxièmement, donner plus de visibilité à un personnage noir, donc qui va incarner Isaac de Bancolé, un inspecteur de l'IGS, que vous pourrez découvrir à l'écran dans l'extrait numéro 2. Ce qui est intéressant ici, hein, je n'ai pas le temps de commenter énormément ce film, mais c'est de mettre sur le même plan, on pourrait dire, l'ouverture à une représentation genrée qui se veut plus équitable, et en même temps l'ouverture à une représentation ethnique et raciale qui se veut également plus équitable et plus en phase avec la société française. En effet, le cinéma policier français, hein, est un bastion de la blanchité, de l'identité blanche à différents égards. Et finalement, ici, ce sont deux formes de personnages traditionnellement marginalisés par cet univers qui vont devoir collaborer ensemble et qui occupent le haut de l'affiche ensemble. Vous pouvez regarder l'extrait numéro 2 pour avoir une illustration de cette idée. Ça correspond au passage où l'inspectrice incarnée par Josiane Balasco pense avoir arrêté un criminel en la personne d'Isaac de Bancolé, et celui-ci se révèle finalement inspecteur de l'IGS et lui tend sa carte alors qu'il se trouve dans son bureau et qu'ils sont observés, hein, par tout le commissariat comme pour finalement mettre en abîme cette idée que des personnages auparavant marginalisés, hein, sont dotés ici d'une forme de visibilité nouvelle. Et vont fonctionner, par ailleurs, évidemment, comme un duo comique, hein, dans ce film, qui est un petit peu en décalage, évidemment, comme toujours chez Balasco, avec la gravité, l'atmosphère sombre traditionnellement prêtée au genre. Slide numéro 5. Ces changements sont à mettre en rapport avec l'évolution de la place des femmes dans la police après mai 68, puisque c'est à cette date que l'on peut constater, hein, les premières mesures en faveur d'un recrutement plus égalitaire au sein de l'institution policière, et cela va accompagner un changement, hein, visible au niveau des représentations à l'écran. Donc, évidemment, l'institution policière a très longtemps été considérée comme un métier d'homme, défini comme un métier d'homme. Vous en avez une illustration ici avec une affiche de la police nationale. La police, virgule, un métier d'homme. L'ouvrage de Geneviève Pruvot, De la sergeote à la femme flic, une autre histoire de l'institution policière, revient, hein, sur cette histoire traditionnellement masculine, et montre, hein, que l'ouverture aux femmes des premiers concours de police date du tournant des années 70 de manière assez discrète, et qu'une féminisation très lente et progressive va ensuite intervenir avec la possibilité pour les femmes de candidater à certains postes, donc les concours de commissaire et de gardien de la paix dans les années 70, avec néanmoins un barème spécifique, hein, selon l'identité de genre. Les femmes devaient être plus diplômées que les hommes pour se présenter au concours, et certains postes au concours interne étaient réservés aux hommes. C'est dans ce contexte qu'intervient, donc quelques années après mai 68, le film La femme flic d'Yves Boisset, 1980. Un cinéaste, Yves Boisset, qui a souvent, hein, pris à partie des sujets qui étaient encore relativement nouveaux dans le cinéma de son époque. Et La femme flic est un film assez intéressant, hein, à analyser du point de vue des représentations de genre ou des représentations génériques, avec également un sous-texte social particulièrement difficile du point de vue du sujet de société qu'il entend traiter, en l'occurrence la pédophilie. Le personnage interprété par Miu Miu, qui est devenu célèbre notamment grâce à son rôle dans Les Valseuses de Bernard Blier, quelques années plus tôt, de Bertrand Blier, pardon, va interpréter ici, donc sur un registre tout à fait sérieux, une femme flic à un poste de commande qui non seulement organise l'action, mais oriente le point de vue. Ce film est un grand succès de l'année 1980, classé dans les 20 premiers au box-office, et qui suscite beaucoup de discours dans la presse, qui le juge très à la mode, et qui va, on va dire, accueillir de manière assez ambivalente hein, cette représentation, ce nouveau visage, ce visage humain donné à la police par l'intermédiaire de Miu Miu. Pour vous résumer très rapidement l'intrigue, l'actrice incarne donc le rôle de Corinne Levasseur, une femme divorcée de 28 ans qui se fait une haute idée, une haute opinion de son métier d'inspectrice, et elle va démontrer cela sur le terrain, sauf que ses supérieurs vont très vite estimer qu'elle pousse trop loin, notamment la recherche dans le cadre d'une affaire qui implique quelqu'un de haut placé, et elle se retrouve mutée dans une petite ville du Nord pour avoir arrêté le neveu du maire dans une ville du Midi. Elle y est accueillie par l'inspecteur Saint-Bert, un policier noir avec lequel elle sympathise d'emblée. Donc là aussi, c'est intéressant de retrouver finalement une forme de tandem qui fait écho à celui que l'on peut trouver dans Les Keufs entre deux personnages marginalisés, l'un par son identité de genre, l'autre par son identité raciale ou ethnique. Vous allez ensuite voir ce personnage et vous allez la découvrir dans les extraits, enquêter sur le meurtre d'une adolescente, puis cherchant à démanteler un réseau de prostitution enfantine. Je vous invite à regarder slide 7, l'extrait 3, premier extrait de ce film, le début, pour observer la caractérisation du personnage de Miu Miu dans cette séquence. Vous avez pu voir que le film s'ouvrait hein, par un premier plan subjectif, ce qui nous permet d'embrasser le point de vue de l'héroïne, donc c'est tout sauf anodin, hein, et ça montre que, contrairement par exemple à Dernier domicile connu, où Marlène Jobert faisait équipe avec Lino Ventura, ici c'est bien Miu Miu qui endosse le point de vue principal, celui du récit, qui est donc l'héroïne que on nous invite à suivre, héroïne positive qui a pour fonction de cristalliser la sympathie du public, ce qui est très vite confirmé évidemment par le fait qu'elle sauve dans les premiers instants du film un enfant victime de maltraitance. Sur le plan de l'apparence physique du personnage, tout à fait intéressant de constater effectivement son apparence androgyne, décontractée, ses cheveux coupés courts. Donc on a une image qui détonne un peu des conventions du genre, qui trouble un petit peu aussi les normes de genre de ce point de vue-là. On s'éloigne des bimbos que l'on a pu voir dans les années 50 et 60, et Miu Miu incarne voilà, une féminité, on va dire, ordinaire, vêtue ici d'un jean, d'une veste en velours côtelé, d'un sac en osier, de manière ici, dans un ancrage qui se veut réaliste, sensible à, on va dire, la représentation de la société à l'époque où le film est tourné. Le film affirme aussi la crédibilité de son héroïne dès ses premiers instants, malgré les doutes, les interrogations du père de famille hein, qui fait subir une maltraitance à son enfant. Vous avez pu l'entendre demander « Vous êtes inspecteur de quoi ?» ou encore s'exprimer à haute voix « On aura tout vu », ce qui fait un peu écho au sous-titre de l'affiche des Keufs. Maintenant, on trouve de tout dans la police, sauf qu'ici, nous sommes bien sûr invités hein, à partager le point de vue du film et celui de l'héroïne, donc qui tend à affirmer la normalité hein, de cette présence féminine dans la police. En plus de cela, l'héroïne est montrée comme étant volontaire, entreprenante. Elle comprend tout de suite ce qui se joue ici. Elle parvient à identifier le fait qu'il y a un enfant dissimulé dans le placard. Elle se montre donc efficace, tandis que le flic à moustache qui l'accompagne demeure en retrait et muet pendant toute la scène. Donc voilà des éléments qui montrent que la représentation évolue dans le genre policier criminel. Et bien sûr, le fait que le personnage soit interprété par Miu Miu, qui est associé à la fois à une image de sympathie, à une forme aussi de naturel et de liberté propre aux années 70, ça participe d'une dimension tout à fait dans l'air du temps, d'une dimension progressiste d'une certaine manière, même si le film comporte aussi, dès cette séquence, des aspects plus traditionnels, voire conservateurs, en particulier dans la manière, explique Gwenaëlle Legras, dont il reproduit une image traditionnelle de femme-objet soumise à la loi des hommes. Corinne, en effet, s'intéresse peu aux criminels et préfère regarder avec compassion les enfants victimes. Dans cette séquence, le plan où elle repart avec l'enfant dans les bras confirme sa proximité avec les victimes, et en particulier les jeunes victimes. Cela reproduit quelque part le cliché de la femme maternelle et, comme le souligne ensuite la réplique de l'assistante sociale, « à chacun son métier », cette présentation de l'héroïne soulève le problème de la définition de son statut par rapport à l'assistante sociale. Le film renvoie quelque part l'enquêtrice au statut des premières femmes recrutées dans la police dans les années 30 qui suivaient une formation d'assistante sociale mais n'étaient pas armées. On a un peu l'impression ici que c'est une figure qui oscille entre la policière et l'assistante sociale. Et d'ailleurs, l'enquête policière elle-même va devenir dans ce film une enquête sociale, comme c'était déjà le cas dans Dernier domicile connu. Il n'est pas étonnant dès lors que l'instinct maternel et la sensibilité féminine de Miu Miu soient systématiquement évoqués dans la réception critique du film, qui vont cantonner l'actrice à un registre spécifiquement féminin, qui contient déjà l'annonce d'un manque par rapport à l'image étalon de la police exclusivement masculine. Donc on retrouve cette idée que la police est un métier d'homme et que Miu Miu l'incarne ici d'une manière qui n'est pas conforme à ce qu'on attend traditionnellement de la police. Dès les premières séquences, Miu Miu apparaît en effet non seulement comme une femme flic entre crédibilité et sensibilité, mais encore comme une femme enfant, souvent nommée par des qualificatifs infantilisants par ses collègues, une môme, une cocotte notamment. Vous pouvez le voir dans l'extrait numéro 4. Alors, vous avez pu voir tout d'abord la manière dont on use de qualificatifs infantilisants à son endroit, la môme, ma cocotte, et cela s'accompagne d'une forme de mise en scène qui va avoir tendance à la placer comme hiérarchiquement inférieure de par son identité de genre. En effet, le plan où ses deux collègues lui expliquent en gros qu'elle va se faire remonter les bretelles, la montre filmée en plongée, avec le regard baissé, la voix bredouillante, et on sent qu'elle est en train de perdre ses moyens, ce qui se ressent aussi ensuite lors de la séquence avec son supérieur, où le même procédé est utilisé, à nouveau, filmage en plongée, regard baissé, voix balbutiante. Donc ici, vous avez vu qu'elle n'a que peu l'occasion de se défendre, et la séquence nous invite, de ce point de vue, à donner un certain crédit à l'idée exprimée de façon misogyne par un de ses collègues, « Les femmes, c'est pas fait pour ce métier ». Cette idée est amenée de manière différente par l'extrait suivant que je vous propose de regarder. Vous allez voir que Corinne donc, a compris qu'elle avait été trahie par son petit ami, substitut du procureur dans une affaire délicate, et elle n'hésite pas à le gifler en plein palais de justice devant le procureur, ce qui d'un côté témoigne bon, d'une force de caractère, on va dire, qui est relativement inhabituel pour ce type de personnage. De l'autre côté, cependant, c'est un rapport problématique entre sphère privée et professionnel qui se fait jour au travers de la séquence, l'impression finalement qu'elle n'arrive pas à concilier de manière cohérente sa vie privée et sa vie professionnelle. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve très souvent dans le cinéma policier criminel français, la poursuite d'une vie privée et d'une vie professionnelle pour l'héroïne sont présentées comme incompatibles. L'inspectrice ne sait pas gérer sa vie sentimentale, ce qui perturbe son travail et l'amène à l'échec. Dans la suite de l'extrait, vous la voyez qui se retrouve coincée aux archives, donc pour s'être montrée frondeuse par rapport à sa hiérarchie. Et vous avez un premier de ses collègues qui tente de se montrer entreprenant en lui touchant les fesses alors qu'elle se trouve sur un tabouret en train d'étudier des dossiers. Elle répond vertement « ça va pas, non ?» ce qui, là aussi, bon, montre une certaine capacité hein, de sa part à faire face ici à son collègue qui disparaît, s'éclipse très rapidement de la séquence. Néanmoins, l'enjeu qui ressort davantage, je trouve, dans cette séquence, c'est lorsque un deuxième collègue, mon nommé Sudi, vient la rejoindre et qu'il se montre tout d'abord empathique avec elle en lui disant « voilà, j'espère qu'il ne t'a pas trop emmerdé, etc. » Et elle le remercie de son aide et lui donne un jus de fruits et il répond « de rien, ma cocotte », ce qui la replace en fait instantanément dans une position de subordination, comme si finalement elle ne pouvait pas y échapper. Hein. C'est-à-dire que même lorsqu'elle se montre à un moment donné volontaire, efficace, entreprenante, ou qu'elle refuse ici un comportement sexiste, elle est immédiatement rappelée à sa condition de femme dans la police, ce qui signifie une sorte de sous-condition, hein, nous suggère le film, à travers notamment cette séquence où Sudi lui-même répète à nouveau « Je savais que t'étais pas faite pour ce métier », avant de s'exprimer « Un bon conseil, mon petit », laisse tomber, en gros, le fait de chercher à avoir le dernier mot de l'histoire dans cette affaire, au risque de mettre en accusation le neveu du maire, ce qui va conduire à sa mutation. Non seulement poursuites d'une vie privée et d'une vie professionnelle sont présentées comme incompatibles, mais Miu Miu, finalement, ne remet pas en cause hein, la domination masculine dans ce film, puisque l'institution judiciaire finit par la réduire au silence en sanctionnant sa rébellion contre l'ordre social et patriarcal. On va voir ensuite dans les extraits suivants, que le genre neutralise cette figure d'émancipation féminine lorsqu'elle se heurte à un rapport de force trop inégal ou lorsqu'elle commet des erreurs, notamment sur le terrain. Le récit va en effet contenir ce personnage potentiellement transgressif en la plaçant en même temps dans une position de victime, donc à différents moments du film, c'est-à-dire dans un rôle féminin éminemment traditionnel au regard du genre policier criminel dans son ensemble. Cela va commencer de manière pourtant progressiste en apparence, hein, c'est-à-dire que vous avez une séquence donc, que je ne montre pas ici, mais vous pourrez la retrouver dans le film, hein, que je vous propose de regarder en entier de toute manière, où vous la voyez tirer sur des cibles, hein, s'entraînant avec ses collègues et se montrant meilleur au tir que ses collègues, ce qui à première vue, hein, pourrait aller dans le sens de l'affirmation de ce personnage et de son émancipation dans le cadre de l'institution policière et dans le cadre de son activité professionnelle en tant qu'inspectrice. Néanmoins, sur le terrain, les choses vont être tout à fait différentes et à partir du moment où elle va être en situation d'exercer le pouvoir propre à un agent de police, on va voir que très rapidement, elle va commencer à perdre ses moyens et à rencontrer beaucoup plus de difficultés. L'extrait numéro 6, slide 10, illustre donc cette idée. Donc, vous avez pu voir que Corinne, se retrouvant seule face à un dangereux suspect qui s'échappe par la fenêtre, et qui arrive près d'elle, la découvrant seule, commence à se rapprocher dangereusement avec son couteau à cran d'arrêt. Elle sort son revolver, donc on retrouve ici l'importance de cette arme dans le film policier criminel. On l'a déjà évoqué à propos du film Piège, notamment de la capacité qu'avait le personnage féminin à se saisir à un moment donné du revolver de l'inspecteur Battle, donc dans un moment particulièrement intéressant sur le plan justement des représentations de genre. Et ici, c'est également un moment crucial que, à l'inverse, l'héroïne se révèle incapable d'utiliser sur le terrain une arme que pourtant, techniquement, elle est censée maîtriser hein, à travers sa capacité à tirer sur des cibles à l'entraînement. On retrouve ici un plan qui ressemble un peu à celui d'un western, à la Serge de Léone, ou même de n'importe quel western, avec les deux adversaires qui se font face, mais un plan qui montre clairement le personnage masculin, le suspect, extrêmement menaçant hein, dans la manière dont il est représenté et dont il s'avance comme cela avec son cran d'arrêt vers la jeune femme qui paraît complètement paralysée, incapable de lui tirer dessus, incapable d'utiliser son arme en service, et il faut l'intervention de son collègue pour finalement lui sauver la vie, hein, comme elle le dit elle-même, comme si finalement, si le collègue n'était pas intervenu, elle aurait été incapable de faire quoi que ce soit avec cette arme. Donc on a ici, dans ce comportement, cette hésitation, cette séquence, hein, où elle suspend son geste, l'idée communément admise que l'idéalisme, la sensibilité, se situerait du côté de la féminité contre le réalisme, la force, le contrôle, du côté de la masculinité. Cette idée est affirmée aussi dans les dialogues, puisque lorsque son collègue lui répond, hein, lorsqu'elle le remercie de lui avoir sauvé la vie, c'est rien, c'est l'instinct professionnel, et cette simple phrase, hein, elle exprime ce qui les différencie tous les deux, et ce qui différencie au plan du genre, finalement, la représentation du policier et de la policière, hein, le fait que le policier possède un instinct professionnel qui fait défaut à la jeune femme. Hein. Donc l'instinct professionnel, ça sous-entend finalement la répression ou plus largement hein, la capacité d'agir propre à la vraie police, donc celle qui peut effectivement assurer le maintien de l'ordre, la police qui n'est pas seulement caractérisée par sa sensibilité et son instinct maternel. Et de fait, Miu Miu n'est présentée dans le film comme efficace que lorsqu'elle se contente en fait d'opérer sur un terrain qui est propice à l'exercice de ses qualités spécifiquement féminines, à savoir la protection de l'enfance. On est donc loin ici hein, d'une figure capable de rivaliser avec on va dire Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo hein, lorsqu'ils s'affrontent virilement avec le coupable dans les films qu'on a évoqués au début du cours. Le moteur de l'enquêtrice, ici comme dans d'autres films, hein, ça reste la compassion, l'identification, voire la sur-identification avec les victimes, et cela est d'autant plus prégnant dans le film que Miu Miu elle-même va apparaître comme une victime dans la séquence que je vous propose de regarder, slide numéro 11, extrait numéro 7. Ce qui est frappant dans cette séquence, hein, c'est que l'héroïne donc, se trouve aux côtés d'un ouvrier avec qui elle a collaboré pour remonter la trace d'un réseau pédophile, et elle se trouve en position, on a l'impression, de pouvoir agir concrètement pour sauver un enfant en présence d'un adulte malfaisant, sauf que elle commence à exprimer son impuissance, c'est-à-dire le fait qu'elle ne peut pas agir. Et à la seconde d'après, cette idée d'impuissance est encore affirmée de manière plus forte, puisque on lui tire les cheveux et qu'elle se retrouve en position de victime, totalement impuissante, de même que d'ailleurs l'ouvrier qui l'accompagne. Là aussi, ça dit quelque chose hein, sur le plan symbolique, puisque ce personnage d'ouvrier, donc, est un personnage évidemment marginalisé du point de vue social, qui en plus dans l'intrigue du film est mal vu de à peu près tout le village, et sans aucune pouvoir, sans aucun pouvoir d'action véritable. Et l'association ici entre les deux, dans leur incapacité à faire face à leurs adversaires et à ces deux hommes qui tentent de, qui menacent de violer Corinne et qui y seraient certainement parvenus si un badaud n'était pas arrivé un petit peu comme un Deus ex machina pour lui permettre de, d'en réchapper. Ici, on a vraiment l'affirmation dans cette séquence hein, de l'assignement à résidence du personnage dans un rôle féminin traditionnel, celui de victime qui vient se superposer à celui de femme-enfant. Cette mise en échec annonce la fin du film, hein, où l'héroïne va également être finalement écrasée hein, par l'autorité auquel elle doit se soumettre, et c'est quelque chose que l'on retrouve aussi hein, dans d'autres films, en particulier populaires du cinéma criminel policier français, comme par exemple Dernier domicile connu ou La guerre des polices. Même si ces enquêtrices ont des compétences, même si elles peuvent finalement humaniser le visage de la police, et même si ces films possèdent certains aspects progressistes, hein, ils montrent explicitement ou implicitement l'enquêteur comme seule incarnation de la force et de l'héroïsme véritable, renvoyant l'enquêtrice hein, à une forme de faiblesse, d'impuissance, de marginalisation ou de victimisation. Il est intéressant, dans cette perspective, de ce point de vue, de s'intéresser à une seconde tendance qui est moins importante que la première, puisqu'elle ne représente qu'environ 20% des enquêtrices sur la période, des films qui se situent davantage du côté du cinéma d'auteur et qui vont résoudre le trouble dans le genre causé par l'incursion d'un personnage féminin dans un espace de pouvoir masculin, non pas en jouant comme ici sur la structure narrative pour punir l'enquêtrice, mais en la fétichisant, en la transformant en objet et en vecteur de désir, notamment au travers de références cinéphiliques. Cette tendance, qui peut faire écho à la fétichisation que l'on a vue à l'heure dans les années 50 et 60, dans la série noire en particulier, dans les pépés de la série noire, se retrouve notamment dans Vivement Dimanche de François Truffaut. Je vous propose de regarder les deux extraits situés au début du film pour en avoir une illustration. Extrait numéro 8 et numéro 9. La première extrait, donc c'est le générique du film, hein, est révélateur hein, de cette posture, puisque il n'a finalement aucun enjeu narratif. Il ne sert à rien d'autre qu'à nous dévoiler les jambes de Fanny Ardant sous le regard amoureux de la caméra de François Truffaut sur ce modèle hein, de la muse qui est celui préconisé, privilégié par la nouvelle vague hein, depuis le tournant des années 60. Ici, Fanny Ardant interprète une enquêtrice de choc, mais surtout de charme dans un film qui multiplie les références au cinéma policier criminel américain. Donc, je ne vous fais pas la liste de ces références, elle est facilement trouvable. Ce qui me semble plus pertinent ici, c'est d'insister sur la manière dont cette première apparition et l'extrait qui suit vont montrer Fanny Ardant, certes, comme une femme dynamique qui marche d'un pas assuré et qui sera le rôle moteur de l'action, mais qui reste avant tout ici une belle image filmique qui sera bien sûr ensuite relayée hein, par le regard de l'alter ego du cinéaste dans la fiction, à savoir le personnage de Jean-Louis Trintignant. Cette séquence, pour le dire autrement, est une séquence qui est purement gratuite hein, du point de vue de l'intrigue, comme l'est la seconde, où Barbara se fait draguer par un inconnu et dont on ne voit pas quel est l'intérêt narratif, à part nous rappeler que Barbara, comme Fanny Ardant, est très belle et donc susceptible d'être regardée avec attention par la caméra comme par ces personnages qui gravitent autour d'elle. Ici, si l'on ne peut pas limiter hein, l'enjeu de la figure de l'enquêtrice à ses constats, il n'en détermine pas moins de manière assez importante hein, la manière dont le trouble dans le genre est assez facilement résolu par le dispositif mis en place par Truffaut, qui est un dispositif à la fois cinématographique et voyeuriste et fétichiste, dans la manière dont il va faire rejouer à Fanny Ardant des scènes de films emblématiques. On pense par exemple à celle de Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock, hein, où le personnage interprété par James Stewart, à un moment donné, regardait sa fiancée interprétée par Grace Kelly depuis sa fenêtre et depuis sa paire de jumelles pour qu'elle essaye de percer le mystère d'un assassinat qui potentiellement aurait eu lieu dans l'appartement d'en face. Cette séquence est d'ailleurs rejouée hein, dans Vivement Dimanche, mais selon un dispositif hein, qui accentue encore la misogynie que l'on pouvait trouver dans certaines formes policières chez Alfred Hitchcock. François Truffaut a notamment déclaré, premièrement, le cinéma est l'art de faire faire des jolies choses à des jolies femmes, et deuxièmement, les jambes des femmes sont des compas qui gouvernent le monde, et on a l'impression ici que dans ces deux citations, ce sont des illustrations de cette maxime, et qu'il est finalement difficile hein, de trouver un impact du personnage féminin sur le récit qui sortirait de ce cadre. Néanmoins, voilà, je vous invite à regarder le film dans sa globalité. Je ne le commande pas davantage pour ne pas étendre à de façon démesurée cet enregistrement, mais voilà, je vous invite à regarder avec attention certaines autres séquences si vous le souhaitez et à bien sûr, reconnaître éventuellement les clins d'œil cinéphiliques distillés par François Truffaut dans cette intrigue policière. Merci de votre attention et à bientôt.